Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Comme chaque vendredi, nous causons éducation. Et aujourd'hui, une question en débat. Faut-il réglementer les tenues à l'école? Entre les mini-shorts, les piercings, les manucures fantaisistes ou les décolletés affolants, vous êtes déjà très nombreux à réagir sur nos réseaux sociaux. Certains lycées prennent désormais des mesures pour réglementer l'accoutrement des élèves de façon très précise, voire des étudiants aussi, car le problème se pose aussi dans certaines universités, notamment sur le continent africain. Alors, un look outrageux peut-il nuire aux études ou bien au contraire s'agit-il finalement d'une part de la personnalité des jeunes? Dans le fond, est-il déterminant d'avoir un look correct pour accéder au savoir? Nous attendons vos témoignages. Notamment si vous dirigez une institution scolaire, si vous êtes enseignant ou parent, dites-nous comment vous vivez ce problème au quotidien. Vous nous appelez tout de suite au 33 1 84 22 71 71 pour nous éclairer. Je reçois dans le studio de RFI le pédopsychiatre Stéphane Clerget. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des enfants et des adolescents. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur le monde des adolescents. Nous allons en parler aussi avec un chef d'établissement. Bonjour Michel Richard.
Bonjour.
Vous êtes principal de collège en région parisienne à Versailles, mais vous exprimez évidemment en tant que secrétaire général adjoint du syndicat des chefs d'établissement. Les tenues vestimentaires, c'est l'un des dossiers récurrents pour un principal ou pour un proviseur ou...
Alors, dossier récurrent, je pense pas que ça soit le terme qui convient. C'est un dossier ponctuel. D'abord, c'est très fonction de la saison. C'est un dossier qui prend de l'actualité au moment de la rentrée scolaire, puisqu'on est au mois de fin août, début septembre.
Chaud, oui.
C'est un dossier qui prend toute son acuité au printemps, surtout si le printemps est un petit peu chaud. L'an dernier, il a été froid, humide, donc le problème s'est pas posé. C'est un problème aussi qui est très lié au phénomène de mode vestimentaire. Alors, on a eu la mode de la brassière très courte, ensuite on a eu la mode du décolleté très plongeant.
Il faut surveiller Internet. Donc, quand
il, faut
est,
il faut surveiller.
Quand
il
on
faut
est chef d'établissement.
Nous pensons que nous fonctionnons avec des règlements intérieurs qui précisent que les élèves doivent avoir une tenue décente et correcte.
Alors justement, vous allez nous préciser dans quelques instants de quoi s'agit-il. Nous serons également en ligne avec un proviseur à Abidjan qui, malgré l'uniforme en vigueur, a imposé à toutes les filles les cheveux courts, mais alors de façon assez drastique et assez musclée. Résultat, un tollé général, il nous en parlera. Les voisines et les voisins, donc surtout, vous n'attendez pas la fin de l'émission pour témoigner ou pour dialoguer avec nos invités au 33 1 84 22 71 71. Beaucoup de messages, vraiment beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Hervé au Togo nous dit, ma cousine, c'est ce genre d'élève qu'on voit à Lomé lorsqu'elle s'habille le matin. Je me demande si elle va vraiment à l'école ou au studio. D'ailleurs, ses résultats sont toujours médiocres. Farouk à Cotonou au Bénin, c'est une situation qui commence à prendre de l'ampleur. Il faudrait nécessairement y remédier. Moi, ça a failli me coûter mon bac car ma camarade de table était vraiment attirante. Il a fallu que je me déplace pour me recentrer sur mes études tellement c'était sérieux. Bourdali nous dit, le problème de l'indécence de l'habillement ne touche pas seulement les filles, mais aussi les jeunes garçons. Il faut une prise de conscience. L'école n'est ni un podium de défilé de mode et encore moins une boîte de nuit ou encore Yakuba qui est à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Dans mon collège, les règlements sont stricts. La tenue est affichée dans la cour. Les garçons ne doivent pas trop plaquer leurs cheveux, pas de coiffure fantasque. Et quant aux filles, la jupe doit dépasser largement les genoux. Le pantalon doit être non moulant, la chemise bien boutonnée. Et si toutes ces conditions ne sont pas réunis, eh bien la récréation leur est interdite. Voilà, c'est assez simple à comprendre. Ou encore un internaute qui nous dit le problème, Vanessa qui est à Paris, nous dit les codes vestimentaires dans le monde du travail, notamment en France, sont très stricts. Il faut être politiquement correct et ça semble tout à fait normal que l'école nous apprenne aussi à nous conformer à ce qui nous attend. Bon, à discuter. Ou encore, je vous livre un dernier message, celui d'Antoine qui est en République démocratique du Congo. Pensez-vous que si Sarkozy ou Hollande venaient faire leur campagne électorale avec des piercings et des tatouages, on les prendrait au sérieux? Vu comme ça, effectivement. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Mais tout de suite, direction la sortie des lycées. Sur le macadam, des looks et des silhouettes affolantes en région parisienne. Voici le grand déballage des petites provocations scolaires.
Ma prof d'espagnol
bagnole, je mets des décolletés. Et elle me le fait remarquer beaucoup. Elle me fait c'est pas bien vis-à-vis des profs. C'est assez vulgaire, elle me dit. Mais elle me le dit gentiment, elle me le dit pas sur un ton agressif.
Pourquoi on baisse nos pantalons? Ils font ouais, les jeunes, vous baissez vos pantalons. Ils aiment pas ça, les profs, ils sont plutôt vieillots, années 1980, un peu à l'ancienne quoi.
Des fois, on venait en tongs ou en short de plage et là, ça leur plaisait pas trop.
Ouais, qui viennent en tongs l'été?
C'est déjà arrivé et ils ont dû rentrer chez eux pour se changer.
Ouais, bah justement, les gens qui viennent en mini short avec un t-shirt hyper court, des chaussures à talons,
enfin.
Transparent, on voit les culottes à travers, donc c'est un peu abusé.
Surtout les filles, l'été, elles mettent des petits débardeurs, des mini shorts et tout. Bon, après les profs, ça les dérange, nous ça nous dérange pas trop, mais les profs, ils aiment pas.
J'en ai vu une qui avait une jupe très très courte, sans collant.
Il y en a une, elle a un manteau léopard, genre qui descend hyper bas. Elle a un rouge à lèvres très 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 rouge et elle a un diadème.
Ouais.
Et genre la dernière fois, je l'ai vu en train de fumer une clope à côté de l'échafaudage, on avait l'impression que si c'était le soir à Pigalle.
Ouais.
Voilà, tu as trouvé que c'était provocant. Un peu, ouais. Ça plairait pas à tout le monde, quoi.
Bah en fait, tant qu'on vient pas, je sais pas, en mini short avec un t-shirt hyper court, ça va.
Ouais, moi je suis choqué quand je vois des garçons qui mettent des cols en V là, jusqu'au nombril qui descendent comme ça, ça me choque. Non, ça me choque beaucoup. Ou qui baissent leurs pantalons en dessous des fesses, ça me choque. On rentre dans un lycée quand même, on n'est pas dans un bordel. On va pas rentrer en string. On s'habille comme on veut, mais d'une façon quand même
correcte.
Ouais, correcte, toi.
Stéphane Clergé, Michel Richard, quelles sont vos réactions à un jeu, une fantaisie que nous décrivent ces adolescents? Comment est-ce qu'il faut interpréter finalement les débordements vestimentaires des élèves, Stéphane Clergé?
Bon, ben d'abord comme un souci de liberté individuelle, hein, il s'agit quand même de la liberté individuelle, la manière dont on s'habille, mais il ne s'agit pas non plus de liberté fondamentale, en tout cas c'est ce que la Cour de cassation a déclaré à l'occasion de la question justement des vêtements au travail. Comme l'a signalé une de vos auditrices, hein, c'est vrai que la tenue au travail est aussi réglementée. Donc on peut effectivement s'appuyer là-dessus pour expliquer aux jeunes qu'ils peuvent aussi réglementer leur tenue à l'école. Ce qu'on entend quand même là dans les discours, dans les témoignages, c'est qu'il s'agit surtout des tenues aguichantes, que ce soit d'ailleurs celles des garçons ou celles des filles. On sent qu'effectivement c'est une période de la vie où on aime séduire, on a besoin.
On découvre la sexualité aussi.
On découvre la sexualité et puis on a envie aussi d'expérimenter son pouvoir sur autrui. Et puis c'est vrai que le vêtement vient aussi exprimer un peu nos émotions. Donc quand nos émotions sont un peu débordantes, les vêtements débordent. Ce qui est intéressant, c'est que globalement il balance entre un désir de pouvoir s'habiller comme il le souhaite et à la fois il connaissent tout de même être un petit peu gênés par ces débordements.
Mmh. Ouais, généralement, c'est ça. Ils disent toujours que ce sont les autres. Hein. Ils ne sont pas concernés, mais enfin bon. Oui. Michel Richard, vous qui êtes chef d'établissement, vous êtes principal de collège. Alors, vous avez vu que les enseignants et les chefs d'établissement sont un petit peu rhabillés pour l'hiver, en disant que vous êtes tous années 80. Enfin, ceci, c'est un sujet qui est vieux, qui est très vieux, hein, le problème de la réglementation des tenues vestimentaires.
Hein. Le problème existe à partir du moment où on a abandonné ou on n'a pas pris l'uniforme. Donc, celui-là, par exemple, dans les établissements scolaires des académies ultramarines, aux Antilles, par exemple, les élèves portent un uniforme. Donc là, le problème ne se pose pas. Il se pose depuis, effectivement, qu'on a abandonné l'uniforme et qu'on a laissé cette liberté, comme le dit le pédopsychiatre qui est avec nous aujourd'hui. Il se pose parce qu'il y a des problèmes de mode vestimentaire.
Mais alors là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau en ce moment? On a quand même le sentiment que de plus en plus de chefs d'établissement cherchent à resserrer la vis, à faire appliquer davantage le règlement, voire à resserrer le règlement lui-même.
Alors, resserrer le règlement lui-même est très difficile, puisque je vous dis, dans un règlement intérieur, vous indiquez que les élèves doivent porter une tenue correcte et décente. Sauf que le mot décente est un mot subjectif par nature, hein, puisque chacun met la décence là où il a son repère de valeur.
Mais vous avez le droit de préciser, non, dans le règlement
oui,
intérieur?
Sauf que si vous précisez, ça va vous amener à entrer dans des discussions et dans des conflits impossibles. Donc moi, ce que nous pensons, c'est qu'il est préférable très nettement d'avoir une entrée sur être collégien ou être lycéen, c'est avoir une activité. Cette activité est une activité de travail. Et dans une activité de travail, on porte la tenue vestimentaire qui correspond à l'activité que l'on exerce. Moi, je dis souvent, lorsque je suis confronté à cette situation, ça se produit en général soit avant les vacances, les grandes vacances, soit après les grandes vacances. J'ai dit, vous me voyez toute la journée en costume, chemise, cravate.
Mais cet été, c'est pas le cas de tous les chefs d'établissement, hein, d'ailleurs.
C'est le cas de beaucoup de chefs d'établissement, quand même. il faut le reconnaître.
Il y a une espèce de... Pardon, je vous interromps. À la fois, là, vous pointez quelque chose d'important, c'est que on entend aussi des jeunes se plaindre de la tenue vestimentaire de certains enseignants ou de certaines enseignantes. Un tel est vraiment négligé, une telle est vraiment trop exhibitionniste. Donc, c'est vrai que si on impose, j'allais dire, soit un uniforme, soit un code vestimentaire qui décrirait ce qu'il ne faut pas porter, je pense qu'il est important aussi que les adultes dans l'établissement respectent un code vestimentaire.
Tout à fait, absolument.
C'est la raison pour laquelle vous portez une cravate et une veste.
Alors, c'est mon choix, c'est-à-dire que j'estime que je suis représentant de l'État dans l'établissement et qu'à ce titre-là, je me dois d'avoir une certaine tenue vestimentaire. Bien évidemment, chacun choisit sa tenue vestimentaire, comme vous le disiez si bien, en fonction de sa personnalité. Donc, ce que je dis aux élèves, c'est qu'il faut avoir une tenue adaptée à l'activité que l'on exerce. Et comme je vous dis, on est souvent avant ou après les vacances, je leur dis, regardez, est-ce que vous n'auriez, quelle aurait été votre réaction si vous m'aviez croisé il y a 15 jours sur la plage habillé comme je suis? Vous auriez éclaté de rire, vous auriez pris une photo, vous l'auriez mis sur un réseau social en vous moquant. Eh bien, moi, de la même façon, je vous dis, lorsque vous venez avec une tenue de plage pendant l'activité scolaire, vous avez une tenue qui n'est pas adaptée à l'activité que vous allez commettre. Ça, c'est le premier choix. Deuxième chose, vis-à-vis des filles, j'insiste sur le fait qu'elles se mettent en danger. Parce que pas dans l'établissement, il faut quand même être relativement limité dans cela. Mais une fois qu'on a quitté l'établissement, on retrouve la rue. Mmh. Et là, dans la rue,
Alors, bien évidemment... Alors, en ce moment, notamment... avec la mode des mini-shorts, avec des collants, il faut reconnaître que la fesse dépasse.
On se met en danger parce qu'on risque de rencontrer des personnes qui n'ont pas forcément la maîtrise de leurs pulsions, la maîtrise de leurs tentations. Donc, c'est une deuxième raison.
Donc, c'est un sujet qui est vraiment discuté dans l'établissement entre vous et les élèves.
Moi, je reste persuadé d'une chose, c'est qu'il vaut mieux...
Vous venez dans la classe et vous en discutez directement ou ça se fait dans le couloir?
Ça se fait... Alors, d'abord, on évite de stigmatiser qui que ce soit. Donc, on le fait de manière discrète dans un bureau, dans un dialogue, parce que moi je reste persuadé d'une chose, c'est que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, il vaut mieux convaincre que contraindre.
Sous-entendu, il ne faut pas braquer les élèves.
Absolument, parce que sinon vous avez la réaction contraire, la provocation de l'adolescent. C'est-à-dire que si vous dites c'est interdit, l'adolescent va dire, moi j'aime bien pour me construire, transgresser l'interdit, donc je vais le faire.
Stéphane Clerc.
Oui, ce que dit monsieur le principal est important, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de ne pas braquer les ados, mais c'est vrai que c'est un âge de questionnement, c'est un âge où on aime bien comprendre, et donc il y a les lois, il y a les règles et puis il y a l'esprit des lois. Et c'est vrai que si on a le temps de le faire, c'est toujours important d'expliquer pourquoi telle règle. Et donc, il y a un échange comme ça avec les adolescents. Donc oui, on a parlé effectivement des dangers, même si c'est quand même l'agresseur qui reste responsable. Hein. Mais pour autant, il faut pas donner non plus d'arguments à l'agresseur, qu'il soit adolescent ou adulte, pour importuner une jeune fille ou considérer que sous prétexte qu'elle a des vêtements un peu légers, elle le sollicite ou elle le provoque. Mais il faut aussi expliquer aux adolescents que il y a la question de la pudeur, la question de la loi, et qu'à un moment, c'est vrai qu'on est dans l'attentat à la pudeur, et que là, ça concerne un petit peu tout le monde. Il faut aussi considérer que la liberté individuelle s'arrête là où commence celle de l'autre, et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont dérangés par la tenue de quelqu'un, ne serait-ce que parce qu'elle est elle manque d'hygiène ou elle est effectivement très provocante, et donc ça vient perturber aussi la tranquillité et l'envie de travailler. Et un dernier point, vous notez qu'effectivement on s'habille selon aussi ses états d'âme, mais à l'inverse, la manière dont on s'habille va influencer l'état dans lequel on se trouve.
Alors justement, ça on va y revenir, hein, puisqu'on est quand même là pour étudier quand on est au collège ou au lycée ou à l'université, on va essayer de comprendre quels sont les liens entre le moine et l'habit, par exemple. Vous nous appelez les voisins, les voisines au 33 1 84 22 71 71.
Cette ménière de voisins.
On est tout proche. On échange.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
C'est une émission pour tous les voisins et toutes les voisines de chaque maison.
7 milliards de voisins et la planète se parle.
33 1 84 22 71 71. Faut-il réglementer les tenues à l'école? Nous sommes en ligne avec un proviseur d'établissement, le lycée moderne de Koumassi à Abidjan. Bonjour Clémenda.
Bonjour Emmanuel, comment allez-vous?
Très bien. Vous soyez le bienvenu. Vous dirigez un établissement qui a à peu près 4000 élèves, hein, donc une grosse boutique, on pourrait dire.
Oui.
Votre pays, la Côte d'Ivoire, et c'est intéressant parce que c'est l'un des rares pays d'Afrique de l'Ouest francophone à demeurer extrêmement attaché à l'uniforme. Et malgré l'uniforme, vous connaissez des débordements vestimentaires dans votre lycée. Alors de quoi s'agit-il et comment vous travaillez avec les élèves sur ce sujet?
je pense que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tous ceux qui m'ont précédé. C'était vraiment bien. Alors ici, nous avons la tenue. Voilà, donc la tenue est réglementaire. Pour les filles, ce sont des jupes et puis un haut blanc. Et les garçons, une tenue qui est coupée dans un tissu qu'on appelle le kaki. Alors, mais nous, les débordements, c'est la mode. Les enfants suivent la mode. C'est-à-dire que les garçons, par exemple, portent des chemises collées au corps, des pantalons de taille basse. Les jeunes filles, ce sont des jupes courtes, et puis souvent des chemises décolletées. Bien que la tenue soit imposée et réglementée, mais au niveau de la couture, bon, il y a des fantaisies qui s'introduisent.
Alors les fantaisies, c'est effectivement les filles qui raccourcissent leurs jupes, hein, puisque la jupe, elles la font couper chez qui elles veulent, hein, comme tailleur. Voilà, mais récemment, dans votre établissement, il y a eu quand même, on va dire, une reprise en main, notamment sur les coiffures, où vous avez imposé à toutes les filles d'avoir les cheveux courts et sinon de ne pas pouvoir aller en cours. Mais pourquoi les coiffures?
Bon, mais parce que les coiffures, à la suite des tenues aussi, étaient extravagantes. Voilà, il y avait des mèches de couleurs diverses. Alors, comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, comme on s'habille, c'est très important, parce qu'on s'habille par rapport à l'activité qu'on mène. Alors, donc, nous avons décidé, nous avons fait un séminaire donc le 9 octobre dernier, 9 octobre 2013.
Un séminaire, rien que pour discuter des tenues vestimentaires?
Non, pas seulement des tenues, mais de l'amélioration des résultats de notre établissement. Et nous avons jugé bon que la tenue soit un des points. Enfin, on a parlé de l'environnement moral. Donc, au niveau de l'environnement moral, nous avons parlé de la tenue scolaire, nous avons parlé des cheveux, nous avons parlé des téléphones portables.
Voilà. Parce que votre établissement a des résultats extrêmement médiocres au baccalauréat, hein, c'est bien ça?
Bon, oui, nous étions à 18% l'année dernière. Donc,
de réussite.
Pour l'ensemble de réussite, c'est vraiment pas bon.
Pour nos auditeurs qui ne sont pas sur le continent africain, on a fréquemment des taux de réussite qui sont bas sur le continent africain, autour de 30%.
Ouais, 30-40%, c'est ça.
Alors finalement, voilà, donc vous avez sévi, ça a provoqué un tollé hein, chez les jeunes filles, parce que vous avez dit carrément que vous alliez être là dans l'établissement avec une paire de ciseaux. Et la presse l'a raconté quand même.
Ça c'est la journaliste, ça c'est la presse. Non. Ben, nous avons, à la suite du séminaire, je tiens à préciser que le séminaire a réuni et les parents, des parents, des élèves, plus les membres de l'administration.
Oui. D'accord, mais les filles sont venues protester quand même de façon assez violente, assez véhémente, et les parents d'élèves aussi ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce redressement vestimentaire.
Oui, mais il le fallait. Aujourd'hui, par exemple, tout le monde a suivi le règlement. Les filles ont coupé leurs cheveux, les tenues se sont améliorées. Et puis bon, ben, le travail aussi a repris. La preuve, avant de partir en congé, le 21 décembre dernier, nous avons une réunion avec les parents d'élèves. Beaucoup de parents nous ont félicités pour cette décision courageuse que nous avons prise. Elle n'a pas été facile à prendre, ça il faut le savoir, parce que les enfants ne sont pas toujours prêts à accepter ce qu'on s'introduit dans leur univers, comme ils aiment le dire. Mais c'est le rôle de l'éducateur. J'ai écouté mes prédécesseurs tout à l'heure qui disaient que voilà.
Alors justement, Michel Richard nous disait tout à l'heure, il vaut mieux, à mon avis, convaincre que interdire. Vous, c'est pas la solution que vous avez choisie.
Si, nous avons tenu un séminaire, madame. Mais c'est-à-dire, comme il y a 4000 élèves, on ne peut pas réunir 4000 élèves pour prendre une décision. Donc, nous avons eu la rencontre avec chez nous ici, ça s'appelle le conseil scolaire des élèves. Voilà, que nous avons rencontré. Oui. Nous avons rencontré les chefs de classe qui sont allés vers leurs amis pour parler avec eux. Nous avons aussi ici des éducateurs, des inspecteurs d'orientation qui font l'écoute.
Alors justement, vous restez en ligne avec nous, hein, Clémenda, parce que nos invités vont réagir. On rend l'antenne le temps du flash. Hein, Stéphane Clergé, Michel Richard dans le studio, vous restez avec nous. Faut-il réglementer les tenues à l'école? Et si oui, pourquoi? Vous nous appelez si vous êtes directement concerné, les voisins, les voisines, au 33 1 84 22 71 71. Retour dans 3 minutes.
Géopolitique, le débat.
L'usage de la torture a connu une nouvelle étape après les attentats de 2001 et la guerre totale contre le terrorisme qui a suivi. L'air Bush fut-elle une exception? Des spécialistes nous livrent leur regard sur une pratique dont on peut se demander si elle ne s'est pas démocratiquement instituée comme une méthode de rétorsion envisageable, voire nécessaire et potentiellement légale.
Géopolitique, le débat, Marie-France Chatin.
Dimanche, à partir de 18h10 TU.
RFI.
Vous écoutez RFI, il est 12h30 à Paris, 10h30 en temps universel.
Romain Ozoui.
Bonjour, les commémorations du 70e anniversaire du débarquement de Provence. Elles se déroulent actuellement à Toulon, dans le sud de la France. La cérémonie a lieu au Mont Faron, qui domine la ville de Toulon. Point d'orgue de la journée, ce sera en fin d'après-midi, une cérémonie internationale à bord du porte-avions Charles de Gaulle, en présence d'une quinzaine de dirigeants africains. Il y a 70 ans, avaient débarqué sur les côtes du sud de la France 450 000 hommes, dont près de la moitié d'Africains, issus des anciennes colonies françaises. Cette journée est présidé par François Hollande, le chef de l'État, qui, à l'issue de son premier discours, a proclamé son ambition de maintenir la France à son rang de cinquième puissance économique du monde. L'Ukraine a commencé à inspecter ce matin le convoi humanitaire russe qui est toujours stationné à un poste frontière. La communauté internationale, je vous le rappelle, soupçonne Moscou d'utiliser ce convoi comme une couverture afin d'intervenir dans le conflit irakien. Kiev a trouvé un accord pour que l'aide qui se trouve dans ce convoi soit distribuée par la Croix-Rouge. Sur le front des combats, ceux-ci se sont intensifiés hier. L'armée ukrainienne a passé la vitesse supérieure pour mettre fin à l'insurrection menée par les séparatistes pro-russes. La route entre Lugansk et la frontière russe est désormais contrôlée par Kiev. Les séparatistes pro-russes qui ont été affaiblis dans cette offensive, le principal chef rebelle, le russe Igor Strelkov, a démissionné de son poste. L'épidémie d'Ebola, plus grave que prévu, nouveau cri d'alarme de l'Organisation mondiale de la santé qui estime que l'ampleur de la maladie est largement sous-évaluée. Rappelons que selon le dernier bilan, ce sont 1069 personnes qui ont été tuées. Face à cette situation, l'OMS affirme coordonner une augmentation massive de la réponse internationale avec le soutien individuel de divers pays, des agences de contrôle des maladies et des agences qui appartiennent aux Nations Unies. Les États-Unis font preuve de leur engagement. Hier, le président Barack Obama s'est entretenu avec ses homologues libériennes et sierra-léonais, les autorités sierra-léonaises qui ont annoncé de leur côté qu'elles attendaient ce vendredi un laboratoire mobile envoyé par l'Afrique du Sud. Le calme semble revenir dans la ville de Ferguson, située dans le Missouri, dans le centre des États-Unis. Dans cette petite ville, ces derniers jours, des manifestations tendues s'étaient déroulées pour protester suite au décès d'un jeune noir abattu par un policier. Eh bien, hier soir, le calme est revenu lors d'un défilé qui a réuni plusieurs centaines de personnes. Enfin, en sport, les championnats d'Europe d'athlétisme et la confusion hier soir côté français. Le vainqueur du 3000 mètres steeple, le français Mayedine Mekessi, a été disqualifié pour avoir enlevé son t-shirt avant de franchir la ligne d'arrivée. Par conséquent, c'est le deuxième, un autre français, Johan Kowal, qui est champion d'Europe. Merci d'écouter RFI. Il est 12h33 à Paris.
Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
On est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins, sujet éducation comme chaque vendredi. Aujourd'hui, faut-il réglementer les tenues des élèves? Et si oui, pourquoi? Nous en discutons avec vous, Stéphane Clerget, vous êtes pédopsychiatre, et Michel Richard, vous êtes principal de collège, secrétaire général adjoint du syndicat des chefs d'établissement en France. Vous dirigez un collège d'ailleurs en région parisienne. Et nous étions en ligne avec Clément Da, qui lui dirige, il est professeur du lycée moderne de Koumassi à Abidjan, et qui affirmait que c'était directement lié à une politique de redressement des résultats scolaires et que ça faisait partie, le redressement vestimentaire ou en tout cas une certaine surveillance sur le look des étudiants faisait partie donc finalement du retour à une discipline pour améliorer le niveau des élèves. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que chef d'établissement?
Bon, il faut savoir que la réussite des élèves, c'est un cocktail et un composite de beaucoup d'éléments. Dedans, il y a de la discipline, il y a de la rigueur, mais il y a aussi de construire un établissement bienveillant. C'est-à-dire un établissement dans lequel les adolescents et les adultes chargés de les encadrer ont du plaisir à venir, du plaisir à travailler, du plaisir à être. Et cela, ça se construit sur le long terme en prenant des dispositions qui sont des dispositions expliquées. Il faut jamais imposer, mais toujours essayer de justifier et d'expliquer. Alors,
justifie. Quand on a 4000 élèves, c'est pas simple, hein.
Sauf que c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire que c'est un travail que vous faites tous les jours. C'est une construction pas à pas dans laquelle vous amenez l'ensemble de la communauté, enfin, si possible l'ensemble de la communauté, à adhérer à un certain nombre de valeurs et de principes. Hein. Alors, dans les territoires français, les valeurs sont celles de l'école de la République. Elles sont connues. Hein, c'est celle de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est celle aussi de respect, de tolérance et d'acceptation de la différence. Alors tout cela forme un formidable cocktail, il faut le mettre en œuvre, il faut le faire vivre, il faut le faire fonctionner, et c'est à la fois un mélange, ce que je disais, plutôt convaincre que contraindre, et ne pas hésiter à contraindre lorsque l'on a en face de soi des personnels, des individus, des élèves qui ne veulent pas se soumettre à la règle commune. Parce que se soumettre à la règle commune, c'est aussi progresser, c'est aussi se former.
Mais Stéphane Clerget, tout à l'heure, vous nous parliez avant le flash du problème aussi de l'attentat à la pudeur. Hein. C'est vrai que ça peut choquer des personnes, notamment quand ces looks, ces débordements vestimentaires ont une connotation sexuelle. Clément Dahan nous parlait par exemple des coiffures. Bon, là, il n'y a pas de connotation sexuelle, hein, quand il y a des mèches de couleur.
Alors là, c'est très intéressant justement, parce qu'on voit que le débat déborde. Au-delà des vêtements, on est dans l'apparence finalement. Et c'est vrai que le cheveu, est-ce que c'est du corps ou est-ce que finalement c'est un accessoire de mode? Mais vous savez, en France aussi, on intervient sur les coiffures hein, dans les établissements publics ou privés. On a, certains règlements interdisent certaines colorations, et dans les établissements de la défense, hein, les lycées dits militaires, les garçons doivent avoir des cheveux courts, pas trop courts non plus, donc c'est aussi réglementé. Pour autant, c'est vrai qu'on voit que ça va quand même assez loin. Et la question des filles, par exemple, qui doivent mettre des robes après tout, pourquoi est-ce qu'elles n'auraient pas le droit de mettre des pantalons? Je me souviens qu'en France, même après 68, les filles qui portaient des jeans étaient considérées comme provocantes. Donc on voit aussi que c'est une question aussi un petit peu subjective.
Alors en Cameroun, pour certaines femmes aux fonctionnaires, le pantalon est interdit, hein, dans certains services d'ailleurs.
Donc on voit aussi que c'est effectivement fonction des pays, fonction des cultures et pas seulement fonction des modes. Mais monsieur le principal rappelait les valeurs de la République. C'est vrai que c'est pas uniquement pour des connotations sexuelles. Il y a l'égalité et c'est aussi pour la mixité sociale. Et c'est vrai qu'à Paris notamment, la question se pose beaucoup des différences sociales et des vêtements de marques toujours plus chères qui s'impose.
Alors justement, Clément Dahan, vous à Abidjan, vous dirigez un établissement scolaire, un lycée qui est dans un quartier populaire, hein, à Koumassi. Oui. Est-ce que justement l'origine sociale des élèves, le fait que bon, les familles sont pas du tout des familles fortunées, là aussi ça entre en ligne de compte avec ces débordements vestimentaires? De quelle façon?
Oui, forcément. Vous savez que les parents n'ayant pas les moyens, l'école c'est très l'égalité. L'école prône des valeurs d'égalité, comme disait tout à l'heure l'autre, le principal, l'égalité, le respect, le dialogue, oui. L'école ivoirienne prône aussi ses valeurs. Elle-même insiste là-dessus. C'est pour cela que quand les filles arrivent, il faut faire en sorte que filles comme garçons, tout le monde soit mis sur le même pied d'égalité. Alors quand il y a des élèves qui arrivent et qui ont des coiffures ou bien des tenues un peu plus extravagantes, les autres pensent qu'il faut faire pareil. Et donc on retombe là tout de suite dans l'attentat à la pudeur, parce qu'elles vont aller faire en sorte qu'elles puissent... quelqu'un disait tout à l'heure que les filles se mettent en danger. Oui, c'est vrai, parce qu'elles vont aller chercher des personnes pour les entretenir, pour pouvoir être au même niveau, s'habiller de la même manière que leurs amis, etc.
Alors il faut aussi préciser donc, voilà, que les filles se mettent en danger, comme vous dites, dans les établissements scolaires en Côte d'Ivoire, également parce qu'il n'y a jamais de poursuite à l'encontre des enseignants qui exercent un chantage sexuel pour les notes. Hein. Non seulement il n'y a pas de poursuite à l'égard de ces enseignants, il n'y a même pas de mise à pied, parce que les chefs d'établissement comme vous, souvent, ont peur pour la réputation de leur établissement.
Non, je ne crois pas. C'est-à-dire que pour qu'il y ait poursuite, il faut qu'il y ait plainte. Voilà. Donc si, par exemple, une jeune fille venait à se plaindre à nous, pourquoi est-ce que nous étoufferons? Non.
Vous savez bien quand même que vous êtes souvent, pas vous personnellement, mais je veux dire, les chefs d'établissement sont au courant d'affaires douteuses et qu'on n'a pas tellement envie de les étaler.
Si nous sommes au courant d'une affaire, que la famille prend l'affaire en charge, la justice existe en Côte d'Ivoire. Si la famille prend l'affaire en charge et qu'elle le porte devant le tribunal, c'est pas au chef d'établissement d'étouffer l'affaire. Non. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les filles portent des tenues extravagantes et souvent elles le font parce que elles provoquent des personnes afin que ces personnes-là puissent les entretenir, souvent parce que les parents n'ont pas les moyens de le faire.
Alors je voudrais justement qu'on parle des parents. Merci beaucoup Clément Dahan. Nous sommes en ligne avec Aïssata à Dakar. Bonjour Aïssata.
Bonjour.
Nous vous écoutons, Aïssata.
Alors, moi, je suis complètement d'accord avec les deux interlocuteurs qui viennent de parler.
la première personne a parlé de règles, de respect, de discipline, etc. Et je pense que faire porter la tenue à tous les élèves éviterait les inégalités, quoi. Lutter contre les inégalités peut passer par là.
Donc là, vous parlez, quand vous dites la tenue, vous parlez de l'uniforme, du retour de l'uniforme qui n'est pas précisément en vigueur à Dakar.
Non seulement ça va éviter, ça va lutter contre les inégalités, mais aussi ça peut aider les élèves, que tout le monde soit au même niveau, quoi, de ce côté-là. Parce que franchement, les filles, elles sont habillées d'une certaine façon, c'est assez provocateur. Mais vraiment, c'est on n'a pas l'impression qu'ils vont à l'école. Moi, j'ai une fille, ado, quand il va à l'école, c'est un combat chaque matin. Non, enlève ça, c'est trop court, c'est à l'échant d'or, etc., etc. Donc, je suis pour la tenue, quoi. Pour dire.
Vous êtes mère de famille, mère d'une adolescente, vous dites que c'est un combat chaque matin. Stéphane Clerget, justement, comment ça se négocie, ça, à la maison?
D'abord, pour les parents, c'est plus facile de prendre appui sur un règlement. Donc, si effectivement, on leur a communiqué le règlement de l'établissement et que dans le règlement...
Un règlement qui peut être assez flou, finalement, tenu des
Oui, alors après, ça peut être plus précis avec un code vestimentaire dans lequel on mettrait ce qui ne doit pas se porter, par exemple. Ça peut être plus précis. Parce qu'effectivement, juste tenue décente, c'est pas suffisant. Avec l'uniforme, c'est évidemment plus pratique, mais ça pose d'autres questions, notamment la différenciation garçon-fille qui apparaît un petit peu rigide, peut-être. Et puis, ça s'achète un uniforme. Tout le monde n'a pas forcément les moyens. Donc, en tout cas, s'appuyer pour les parents, s'appuyer effectivement sur le règlement, s'appuyer sur la loi, l'attentat à la pudeur ou la provocation, parce que c'est pas que les tenues des filles. Certains garçons peuvent porter des t-shirts sur lesquels sont écrits des propos diffamatoires, voire racistes.
Ça aussi, ce cas-là, hein, Michel Richard.
On n'a pas ce cas-là, heureusement, pour une raison très simple, c'est que dans notre pays, depuis la loi Guesso, l'antisémitisme, la xénophobie et le racisme ne sont pas des opinions, mais des délits. Et donc là, à ce moment-là, on est capable...
Non, mais ça peut être des propos d'ordre sexuel.
Non, parce que l'école publique est une école... laïque, donc c'est l'école de l'État dans laquelle doit s'impliquer la neutralité de l'État. Donc nous sommes, nous les chefs d'établissement, très vigilants.
Enfin, t-shirt à inscription,
Si c'est une inscription qui n'a pas de relation avec l'expression d'une opinion très très tranchée ou une opinion religieuse.
Ou irrespectueuse. Envers sa maman, par exemple.
Donc, voilà. Sinon, effectivement, là, on est dans le domaine où on intervient et on demande aux élèves de changer.
Je voudrais qu'on accueille une autre auditrice, Renée, qui est une ancienne prof d'histoire géo, qui est en région parisienne. Bonjour René.
Premièrement, concernant, j'ai enseigné dans un lycée à la Martinique et j'ai eu des enfants aussi au collège. Et j'estime que, contrairement à ce que dit le principal qui intervient, que l'uniforme en collège ne résout pas les problèmes. Pourquoi ? Parce que un élève riche peut très bien avoir des accessoires qui montrent qu'il est riche, et puis de toutes les façons, en dehors de ça, c'est pas ça qui gomme les différences sociales, parce qu'il suffit que l'élève ouvre la bouche et on voit bien si son degré de culture, etc.
Non, mais on est bien d'accord, mais d'ailleurs on fait pas un débat sur l'uniforme, hein, là, c'est plutôt faut-il réglementer les tenues à l'école de façon précise, et si oui, pourquoi et jusqu'où?
Il faut une tenue décente, c'est évident, pour tout le monde, y compris les garçons. Parce que je constate depuis le début de l'émission qu'il y a des attaques vraiment en règle contre les filles qui seraient provocantes, qui seraient ci, qui seraient ça, etc. Moi, je pense qu'il faut plutôt éduquer les garçons à respecter les filles, à respecter le corps des filles, même si elles ont les jambes nues, parce qu'il y a la plage aussi. Hein? Alors, est-ce que les garçons ont le droit d'aller toucher le corps d'une fille parce qu'elle est sur la plage en bikini, par exemple? Par conséquent, c'est plus l'éducation de toute la société, y compris des adultes, qu'il faut faire pour éviter, justement, pour apprendre aux garçons à respecter le corps des filles.
D'accord. Merci René pour cette intervention. Alors néanmoins, l'un n'empêche pas l'autre. Hein, pour revenir au problème d'Aïssata en tant que mère de famille, qu'est-ce qu'on peut conseiller à une mère de famille qui dit « moi c'est un combat tous les matins lorsque ma fille part au lycée ou au collège ?»
Donc s'appuyer sur les règles, s'appuyer sur les lois, et puis aussi autoriser. Alors justement, pas autoriser de s'habiller comme ça à l'école, mais autoriser de s'habiller comme ça en d'autres occasions. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de dire à sa jeune fille un vêtement pour chaque occasion. occasion, une tenue pour chaque occasion. Et donc, en fonction des endroits où on va, eh bien, on peut...
Bon, alors, du vernis vert sur les ongles, oui, non, pour aller en cours de maths.
En tout cas, si on est dans un lycée cuisine, non.
Le quotidien, c'est d'entrer dans ces détails-là, finalement.
Ben oui, pourquoi pas. Mais finalement, autour de ces questions-là, c'est des dialogues intéressants qui peuvent se produire entre une mère et sa fille sur, effectivement, ce qui a des sens, ce qui ne l'est pas, ce qui est adapté, ce qui ne l'est pas, ce qui est acceptable pour les autres ou pas, et comment exprimer sa féminité autrement que par les accessoires de mode et par le maquillage. Parce que ces jeunes filles, elles veulent nous dire que c'est des filles, ok, mais on peut leur dire qu'il y a d'autres façons d'être une fille que de se maquiller, et que le maquillage, ça ne résume pas la féminité.
33 1 84 22 71 71, vous nous appelez les voisins et les voisines, faut-il réglementer les tenues à l'école, jusqu'où et pourquoi dans le fond? Nous accueillons Eugène qui est à Douala au Cameroun. Bonjour Eugène.
Bonjour, bonjour.
Eugène, vous nous appelez en tant que père de famille.
Oui, tout à fait.
Nous vous écoutons.
Eh bien, voilà, heureusement au Cameroun, les écoles publiques ont des tenues réglementées. Je suis fier que les privées également s'alignent. Malheureusement, au Cameroun, par exemple, il n'y a que les écoles françaises qui n'ont pas de tenues réglementées. Et je vous inviterai à y aller pour voir des tenues que les jeunes s'y portent.
Vous parlez des lycées français.
Oui, les lycées français représentés au Cameroun n'ont pas de tenue réglementée. Si vous faites un tour, je suis persuadé qu'en tant que père, vous serez très déçu.
Mais alors vous, en tant que père de famille, qu'est-ce que vous interdisez à vos enfants? Vous surveillez leur tenue lorsqu'ils se rendent en cours?
Absolument. Déjà que jamais je ne permettrai qu'elles sortent, surtout la fille, qu'elles sortent avec une tenue très très décente. Je ne le permettrai jamais. D'ailleurs, elle n'aura jamais le courage de faire quand je suis là. Elle n'a même pas ce genre de tenue déjà parce que je n'accepterai pas qu'elle soit tenue dans ma maison. Voilà. Et autant ce qui vaut pour la fille le vaut également pour le garçon. Hein. C'est pas parce que c'est la fille qu'on parlerait pas de garçon, c'est pareil. Hein.
Oui, on a bien compris. Vous n'établissez pas de... Alors, ceci dit, il y a quand même pas mal de lycéens aujourd'hui. Michel Richard, vous êtes bien placé pour le savoir en tant que principal de collège, qui se changent, qui rajoutent des accessoires, etc. sur le chemin de l'école. Hein.
Tout à fait.
Difficile de surveiller le départ de ces enfants.
Complètement. Alors, c'est très dur pour les parents parce que les adolescents peuvent quitter le domicile familial avec une tenue et sur le chemin entre le domicile et l'établissement scolaire, ils en changent. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose de délicat et difficile.
Ça fait aussi partie du jeu.
Ça fait aussi partie du jeu. Il faut donc travailler en concertation avec les familles, expliquer les raisons pour lesquelles on est intervenu, faire de la pédagogie. Hein, je crois qu'un établissement scolaire, c'est le lieu de la pédagogie. Donc il faut faire de la pédagogie. Il faut expliquer aux élèves. Il faut tenter de les faire adhérer à un certain nombre de valeurs et de principes.
Est-ce que les élèves chez vous qui sont le plus dans la provocation sont aussi des élèves qui ont des problèmes scolaires ou ça n'a rien à voir?
Il y a une relation. C'est-à-dire que il y a une relation. L'élève, ce qu'il demande, c'est à être reconnu. À être reconnu dans son statut d'élève, mais à être reconnu également dans son statut d'adolescent, futur adulte. Et il va être très sensibilisé aux marques d'estime que les adultes peuvent lui porter. Et donc, quelque part, lorsqu'il n'aura pas la satisfaction, son besoin de reconnaissance ne sera pas satisfait, il va rentrer dans la provocation. Alors, par tous les moyens, celui de la tenue vestimentaire, celui du comportement, voire celui de la provocation.
Donc, conclusion, le premier de la classe s'habille décemment, c'est ça ?
Pas du tout. Non, pas du tout, parce que vous avez des premiers de la classe qui sont des jeunes qui sont très excentriques, sauf que quand il est premier de la classe, le niveau de tolérance vis-à-vis de lui est bien supérieur que lorsqu'il est en difficulté.
Alors, on va en reparler.
Parce qu'il n'y a pas que la difficulté scolaire. Généralement, il faut différencier la difficulté scolaire et la difficulté comportementale. Hein. Et quand on est bien dans sa tête, bien dans son corps, on est plus à même de se positionner dans son comportement que lorsque l'on est en situation difficile ou d'échec.
Stéphane Clerget.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis, il s'agit aussi de la maîtrise de soi. Et c'est vrai qu'on voit que les jeunes qui portent des tenues très, très débridées ont, d'une manière générale, un peu plus de mal à maîtriser leurs émotions. Et c'est vrai que la réussite scolaire est aussi liée à ça, cette capacité comme ça de maîtriser un peu ses émotions ou ses différents désirs.
Vous nous appelez les voisins et les voisines au 33 1 84 22 71 71. Il nous reste quelques minutes pour intervenir sur les tenues vestimentaires dans les établissements scolaires.
upon a time not long ago. In the streets of a crowd where we live life slow, there was a little boy that they called Bizarre. Had dreams of becoming the ambassador, so we steadied all the ticks and he steadied all the breaks. Drop stereotype, let the people get a taste. Some straight adored it, others just ignored it. Same people that's claiming hip hop was boring. It wasn't ready for the sound. I'm Chick Beretta, getting rid of these clowns. Took them all around the world, international. Sounds so militant, but it's rational. So B-boys, get your back off the wall and swing like Floyd Mayweather at the Garden. Next chain to whatever, I flex challenges ready. And yes, my ghetto people wanna get involved.
What you
doing
for? Who you there? Who you there run for? Look your condition.
Le G7 G8 G20 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 nous parlons des tenues réglementaires ou pas à l'école. Faut-il réglementer les tenues vestimentaires? Alors, c'est intéressant parce qu'on a des auditeurs qui nous disent là sur les réseaux sociaux, comme Babacar, bah, nous, quand on faisait le bac au lycée Maurice de la Fosse à Dakar, on était contre les uniformes parce qu'on voyait pas la nécessité. Sous-entendu, on militait pour la liberté. Mais actuellement, avec cette jeune génération qui suit la mode sans discernement, il devient indispensable pour que l'école reste dans un bon environnement. Donc, on a l'impression que dès que les gens vieillissent un petit peu, ils ont oublié leur désir de jeunesse, de liberté. Ou encore Oumar Gay qui nous dit, moi je suis dans une école de management au Sénégal, on n'a pas ce genre de problème parce qu'il existe un code vestimentaire, c'est-à-dire un uniforme, hein, mis en place par l'administration, et donc les étudiants sont obligés de le respecter, uniforme obligatoire les mardis, jeudis, lundis, mercredis, donc pas le vendredi, hein. Je pense que vendredi c'est Friday wear, puis c'est le jour aussi où on va à la mosquée, et donc voilà, il n'y a pas de problème. Est-ce que Michel Richard, finalement, il y a des tentatives dans les établissements de renverser la vapeur, c'est-à-dire plutôt que d'interdire, de dire, bah, s'il y a une journée par mois, venez habiller le plus classe possible, venez saper les garçons avec une cravate, une veste. Il y a des tentatives comme ça de positiver finalement.
Tout à fait. Il y a eu des tentatives de faire la journée de la journée de la cravate. Et alors, sinon, on rebondit sur le Mardi Gras, où là, le mieux pour que les choses se passent de manière satisfaisante, c'est de prévoir que ce jour-là, par exemple, les élèves pourront venir dans toute tenue à partir du moment où le visage peut-être est découvert et reconnu. Mais effectivement, il y a eu ces tentatives et elles sont dans des établissements où il y avait ces problèmes, elles se sont révélées le plus souvent assez positives.
Et Stéphane Clergé, qu'est-ce que vous en pensez de positiver en créant des journées comme ça où on apprendrait à se sentir bien dans sa peau avec une tenue ultra ultra décente?
Oui, ça peut être amusant, en tout cas ça permet d'inviter à la réflexion, mais c'est vrai qu'on voit qu'à l'adolescence, la question du paraître est fondamentale, à un âge où finalement on ne sait pas très bien qui on est, où l'être est un peu disparate, et pour certains adolescents finalement le paraître fait vraiment office d'identité, et c'est pour ça que c'est très dur pour eux de vivre finalement cette réglementation-là, donc à la fois l'idée c'est effectivement de leur donner aussi des espaces d'expression où ils pourraient exprimer en attendant de savoir un peu mieux qui ils sont, ce qu'ils ont envie enfin la manière dont ils ont envie d'apparaître.
C'est exactement ce que nous dit Adoum sur les réseaux sociaux. Il nous dit qu'il faut suivre la mode, même si elle est laide, et s'en détourner, c'est devenir quelqu'un de comique. Alors je ne sais pas ce qu'il faut comprendre par comique, mais enfin en tout cas, on a des mots similaires en France. Hein, c'est devenir finalement une sorte de ringard. Je voulais aussi vous soumettre les propos de Mara Goyer, enseignante et écrivain, qui publiait récemment dans une tribune du journal Le Monde sur ce sujet-là, il y a quelques semaines, un article qui s'appelait Nos ridicules tracasseries scolaires. Et elle dit, on assiste au retour de la tracasserie. Où spiller la jeunesse, faute de la faire progresser. L'habillement des élèves, c'est l'air du temps et du climat. Il faut lui imposer certains cadres, lui opposer une certaine résistance, sans pour autant dépenser inutilement ses forces. On ne propose strictement rien à des élèves qui ont 2 sur 20 de moyenne dans toutes les matières, mais on veille scrupuleusement à ce qu'ils ne portent pas de short. C'est dur.
Oui, enfin, c'est excessif. Donc, méfions-nous de ne pas aller trop loin dans la critique. Le système éducatif français a des difficultés. Elles ont été mises encore en évidence par la dernière enquête PISA. Pour autant,
avec le niveau qui baisse inexorablement.
Avec le niveau qui baisse. Bon, ça, c'est les conséquences d'un système scolaire qui est particulièrement élitiste. Hein. Donc, on produit une élite de très haut niveau, mais évidemment, le prix à payer pour cela, c'est d'avoir un pourcentage qui s'élève à chaque fois d'élèves en difficulté. C'est pas vrai. On ne laisse plus aujourd'hui d'élèves en difficulté à l'abandon. Et effectivement, le cœur de notre métier, le cœur de notre action, c'est la transmission des savoirs, des savoir-faire, mais aussi du savoir-être. Parce que je rappelle que moi, je suis très fier d'être fonctionnaire du ministère de l'Éducation nationale, alors que mes prédécesseurs étaient fonctionnaires du ministère de l'Instruction publique. Ça veut dire qu'à un moment, on a introduit la dimension éducative dans la mission du service public d'éducation. Et dans cette mission éducative, eh bien, il y a tous les aspects qui sont liés au comportement, à l'attitude, au positionnement. Et j'insiste sur un point, pour les adultes qui exercent dans les établissements scolaires, la valeur de l'exemple est quelque chose de fondamental. On ne peut pas exiger des élèves ou des autres ce que l'on n'est pas capable de s'imposer à soi-même. Et moi, je dis dans l'établissement que je dirige, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez des élèves à condition de vous imposer N plus 1 à vous de ce que vous imposez aux élèves.
Sous-entendu, un grand respect aussi pour les élèves, même quand ils sont assez énervants, ce qui peut arriver. Hein. Stéphane Clergé, oui.
Pour terminer, peut-être. C'est vrai qu'on parle beaucoup des adolescents, mais finalement, les adolescents, sur plein de points, ressemblent aux enfants d'école maternelle. Et c'est vrai que cette question vestimentaire se pose aussi pour les petites maternelles. Telle petite qui veut absolument aller à l'école maternelle avec sa robe de princesse, ou tel le petit avec son t-shirt de Superman alors qu'il fait moins 4 dehors. Donc on voit que finalement, l'éducation vestimentaire, c'est finalement à toutes les périodes de la vie qu'elle peut se poser, et que, contrairement à ce qu'écrit cette personne, c'est pas malveillant que d'inviter son adolescent ou son petit enfant à réfléchir à la manière dont on s'habille, parce que le vêtement, c'est pas rien. Le vêtement, ça participe d'abord à l'image qu'on a envie de donner de soi, et puis ça participe aussi à sa sécurité. Je pense par exemple effectivement à un vêtement adapté au temps qu'il fait, et puis ça participe aussi de l'intégration sociale.
Alors ça participe à l'intégration sociale, et en quoi ça peut aider à mieux apprendre? Vous qui dites souvent dans vos livres, Stéphane Clergé, que les processus d'apprentissage, ça fait intervenir énormément de choses, hein, et pas seulement la matière elle-même. Hein.
Oui, c'est un des éléments, effectivement, la manière dont on s'habille, encore une fois, influence notre état. On sait très bien que selon qu'on s'habille de telle ou telle manière, on va se sentir avec une humeur différente. Donc, il y a des vêtements plus propice à mieux se concentrer, à être plus attentif. Et puis, par rapport à son voisin ou à sa voisine, pour reprendre le titre de votre émission, on va aussi plus ou moins déranger son voisin ou sa voisine selon qu'on est habillé de telle ou telle manière. Et enfin, l'enseignement, la plupart du temps, c'est des enseignements de groupe. C'est-à-dire que c'est pas uniquement un enseignement individuel. Et c'est vrai qu'une tenue un peu commune favorise aussi cet esprit de groupe. Et l'enseignement s'appuie beaucoup sur le groupe pour transmettre à chacun. Et donc, sentir qu'on fait partie d'un groupe, qu'on fait partie d'une communauté, d'abord, ça favorise l'harmonie et la paix au sein de la classe et au sein de l'établissement. Et c'est propice également à l'apprentissage.
Merci à tous les deux. Michel Richard, principal de collège à Versailles, secrétaire général adjoint du syndicat des chefs d'établissement. Stéphane Clergé, pédopsychiatre. Vous avez notamment publié « Réussir à l'école, une question d'amour ». Évidemment, c'est un guide à l'usage des parents. C'est publié chez Larousse. Merci les voisins et les voisines pour vos témoignages. lundi, 7 milliards de voisins. Ne riez pas, nous parlerons de l'obsession du corps sur tous les continents et en particulier du postérieur. Je vous propose de réécouter ce sociologue célèbre en France, Jean-Claude Kaufmann. Il a publié un ouvrage entièrement consacré aux fesses. Des fesses petites et discrètes au nord, des fesses généreuses et rebondies au sud. C'est une véritable géopolitique des fesses qu'il faut absolument réécouter. À lundi les voisins.